ne donnez pas les choses saintes aux chiens et n'envoyez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les piétinent de leurs pieds et que, se retournant, ils ne vous déchirent. » Ce verset de Matthieu 7 au verset 6 est donc un verset qui est passé dans la langue courante et l'on dit couramment l'expression de « jeter des perles aux pourceaux ». Cela dit, la trivialité du verset n'empêche pas qu'il soit l'un des plus difficiles à interpréter, je pourrais dire. En effet, habituellement, il est lu de la façon suivante, et l'on dit que les chiens et les pourceaux représentent les païens, les moins que rien, ceux qui sont indignes qu'on leur adresse la parole, en quelque sorte, ceux qui sont trop éloignés de la religion et auxquels il ne sert à rien de prêcher parce qu'ils risquent de ne rien y comprendre et que, par conséquent, ce serait du gaspillage. Il y aurait donc l'idée que certains sont irrécupérables et qu'il faut réserver ses forces pour ceux qui en valent la peine. C'est en effet comme ça que c'est lu depuis presque 2000 ans, mais personnellement, cela ne me satisfait pas du tout. D'abord parce qu'il y a une sorte d'abandon de ceux que l'on considère comme des pourceaux, alors que le Christ a passé son temps à se préoccuper des plus petits, des plus faibles, de ceux qui justement étaient considérés par les autres comme des pourceaux. Comment Jésus pourrait-il dire qu'il ne faut même pas leur adresser la parole parce que cela ne servirait à rien ? Et d'autre part, la vie de Jésus elle-même est un contre-exemple de la lecture que je viens de faire. Parce que lui, il a prêché pour les moins que rien. Pour lui, il a donné sa vie pour certains qui n'y ont rien compris et qui n'en étaient en tout cas certainement pas dignes, dont nous. Et il est vrai que ceux pour qui il a donné sa vie et ceux à qui il a prêché, n'ayant rien compris, se sont retournés contre lui et l'ont déchiré, puisqu'ils l'ont mis à mort. Mais ça n'empêche qu'il l'a fait quand même. Alors comment expliquer que Jésus puisse nous dire de faire une chose et fasse le contraire, en quelque sorte ? Cela me semble absolument insensé, ou en tout cas totalement incohérent. Alors il est vrai que l'on peut penser que Jésus n'a pas entièrement, je dirais, gâché ses chances, puisque finalement son message est passé, et que par conséquent il n'a pas entièrement prêché pour des pourceaux. Certes, il s'est fait déchirer, mais il a assumé ce risque. Et je dirais qu'il ne s'est pas laissé déchirer pour rien, puisque finalement le message a été entendu, qu'il a été transmis, et que par conséquent, son action n'a pas été vaine. Alors on pourrait lire ce verset comme une sorte de mise en garde en disant, vous savez, méfiez-vous, si vous prêchez à des pourceaux, vous risquez de vous faire déchirer. Mais à ce moment-là, Jésus aurait assumé ce risque, en quelque sorte. Enfin bon, tout cela ne me satisfait pas grandement, je dois vous l'avouer. Et pourtant, dans le fond, si on lit ce passage, je dois dire que ce n'est pas si bête que ça. Non pas que certains ne méritent même pas qu'on leur adresse la parole, mais peut-être, par ce petit commandement, Jésus veut nous dire de faire attention à qui l'on parle, et que l'on doit se préoccuper non seulement du message, mais aussi de l'interlocuteur. Et là, c'est assez vrai, parce que je crois que la question, ce n'est pas seulement ce que l'on a à dire, mais la question, c'est aussi de savoir si ça peut être reçu. Et il n'est peut-être pas, je dirais, sans signification, que de penser que quand on parle à quelqu'un, le quelqu'un n'est pas un réceptacle inerte des paroles que l'on lui donne. Mais parler à quelqu'un, c'est rentrer en relation avec lui. C'est donc dire quelque chose, et il faut se demander si cela va être entendu. Et si l'on parle et que l'on dit quelque chose à quelqu'un qui ne peut pas l'entendre et qui ne pourra jamais l'entendre, est-ce bien utile ? N'est-ce pas contre-productif ? Par conséquent, il faut aussi se préoccuper de l'autre et se dire, qu'est-ce que l'autre va entendre de ce que je lui dis ? Et faute de se poser cette question, on se condamne, je dirais, à un gaspillage, aussi bien pour soi que pour l'autre. Et je crois que c'est la même chose pour les actions. Il ne suffit pas de faire ce que l'on croit bien pour l'autre, si l'autre le prend mal, en quelque sorte. Faire une action, ce n'est pas, je dirais, regarder l'autre comme quelque chose d'immobile et d'inerte qui serait un réceptacle à bonnes œuvres. Mais il faut se demander comment cette œuvre va être reçue, quel effet ça va produire sur l'autre. Et alors, je pourrai, moi, savoir ce que je donne. Une œuvre en soi peut être bonne, mais si elle fait du mal, alors elle devient mauvaise. Et je crois que c'est ça l'amour, justement. L'amour, c'est la préoccupation de l'autre. L'amour, c'est de savoir que le don n'est pas qu'un geste à sens unique, mais le don est une rentrée en communication. Le don est une mise en relation. Et s'il y a un don au mépris de l'autre, et si l'autre est vu simplement comme une machine à recevoir, alors il n'y a plus de vrai don, ou en tout cas, il n'y a plus de possibilité que ce don donne la vie. C'est un viol, en quelque sorte. Et donc le don suppose que l'autre reçoive, que l'autre écoute, que l'autre ne piétine pas et que l'autre ne se retourne pas pour vous déchirer. Alors le problème, en effet, c'est quand on donne à l'autre ce dont il n'a pas besoin, ou lorsque l'on prétend donner à l'autre quelque chose dont il n'éprouve pas le besoin. Et probablement qu'il faut être attentif à cela. Certains le sont. Je pense en particulier à l'armée du salut. Vous savez que les chrétiens sont toujours très prompts à vouloir évangéliser tout le monde et à donner des Bibles à ceux qui ne les réclament pas et à prêcher l'Évangile à ceux qui ne s'y sentent pas appelés. Et l'armée du salut a compris qu'il ne sert à rien de prêcher l'Évangile à quelqu'un qui est en train de crever de faim et qu'il faut d'abord le nourrir parce que ce dont il a besoin, c'est à manger pour survivre dans la minute qui vient. Ensuite, peut-être, pourra-t-il éprouver un autre besoin, et ensuite, peut-être, pourrons-nous lui donner un autre don. Mais il ne sert à rien de donner quelque chose à quelqu'un dont il n'a absolument pas besoin. Et il faut donc, avant de donner, comprendre celui à qui l'on donne. Et avant de parler, il faut écouter celui à qui l'on va parler. Et il faut d'abord, avant de donner, éveiller le désir, mettre en mouvement. Et si l'on veut prêcher l'Évangile, il faut le faire désirer, en quelque sorte. Il ne faut pas le prêcher brutalement. Faire comprendre peut-être à l'autre qu'il y a quelque chose qui pourrait le faire vivre. Donc oui, je pense effectivement que toute bonne chose n'est pas toujours bonne à dire, n'importe où et n'importe comment. Il y a un discernement à avoir pour savoir à qui l'on s'adresse. Et il faut faire attention, je dirais, non seulement à ce que l'on dit, mais aussi à faire attention à celui à qui l'on parle. Il est vrai que même l'Évangile, par exemple, qui pourtant est bon, peut être mal reçu, peut être mal interprété, et peut même mener à son contraire. L'histoire l'a prouvé. L'Évangile peut être mal interprété et il a donné lieu à des massacres, à des intolérances, à des violences épouvantables. Et donc effectivement, les choses saintes données sans discernement peuvent conduire à l'effet contraire. Parce que l'Évangile n'est pas une chose magique qui transformerait de soi-même le cœur de l'homme. Il a besoin d'être reçu d'une certaine manière, sinon il risque de mener à de la violence et à des mauvaises choses. Je crois que le Christ lui-même était attentif à cette dimension des choses. Et certes, il n'a pas eu un enseignement initiatique, puisque ce que je viens de dire, c'est le propre de la conception initiatique de l'enseignement, où l'on dit certaines choses à certains, mais pas tout à tout le monde. Jésus, globalement, avait un enseignement ouvert, et il prêchait, nous dit-on, librement, ouvertement, dans les synagogues et sur les places. Pourtant, il dit, par exemple, en Jean 16, 12, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. » Ce qui prouve qu'il faisait quand même attention à ce qu'il disait et que l'apparente maladresse ou manque de diplomatie de certains propos du Christ, à mon avis, ne sont ni une maladresse ni un manque de diplomatie, mais c'était un calcul savant qui, d'ailleurs, a fort bien porté ses fruits. Paul, à sa suite, de même, en 1 Corinthiens 3, 2, dira « Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter et vous ne pourriez même pas à présent. » Donc vous voyez, le Christ ou Paul était attentif à cet aspect des choses. Alors, dans ce sens, ce que je viens de dire pourrait comprendre pourquoi notre verset est inséré très bizarrement entre deux textes qui semblent n'avoir absolument aucun rapport. Je parle de l'épisode de la paille et de la poutre, et ensuite de celui où Jésus dit « Demandez et l'on vous donnera, frappez et l'on vous ouvrira ». C'est peut-être en effet, pour ce qui est de la paille et de la poutre, Jésus veut-il nous dire, ou Matthieu veut-il faire dire à Jésus, que il n'est pas nécessairement bon de dire son jugement à l'autre qui est pécheur. Parce que, tout simplement, cela risque de se retourner contre moi, parce que dans le fond, je suis peut-être encore plus pécheur que l'autre. Il ne s'agit donc pas de faire étalage de mes merveilles devant les pécheurs, parce que dans le fond, ça se retourne contre moi, puisque le pourceau, c'est moi. Et de même, la leçon qui suit sur le fait de demander est intéressante, parce que cela montre que l'idéal du chrétien n'est pas de se promener dans le monde en se mettant soi-même dans le rôle du sauveur. Il ne s'agit pas de se promener dans le monde en se disant « Voyez, je possède la vérité, je possède des merveilles, des saintetés, des perfections, et tenez mon ami, en voici pour vous, en voici là, en voici encore pour vous, et je vous inonde, je vous arrose de mes vérités, de mes perfections, de ma grandeur et de ma sainteté. » Au contraire, la vie chrétienne n'est pas cela. La vie chrétienne, c'est d'être un mendiant, c'est de demander la sainteté. C'est pas de prétendre l'avoir, c'est de demander. Et donc, la vie chrétienne consiste plus à apprendre à recevoir qu'à prétendre donner. Parce que quand on donne, on se met en position supérieure par rapport à l'autre. Et donc, nous ne sommes pas nous-mêmes dans ce monde comme des sauveurs ayant à donner la perfection à tous. Mais nous devons, avec humilité, apprendre plus à recevoir. Nous devons savoir demander, ne pas faire étalage de notre perfection, ne pas donner avec grandeur notre pardon, mais au contraire, demander pardon. Ne pas juger, comme le dit le Christ juste avant, mais être humble par rapport à l'autre. La foi, ce n'est pas de compter sur sa propre richesse, la foi, c'est de compter sur son manque et donc de savoir demander. Et je crois que l'on est riche, non pas de ce que l'on a, on n'est pas riche de ce que l'on possède vraiment, mais on est riche de ce que l'on recherche, et l'on est riche de ce vers quoi l'on tend. En ce sens, les enfants ont une sorte de vérité philosophique interne absolument extraordinaire. Quand ils désirent un jouet d'une façon ardente, et puis le jour où ils l'ont, ce jouet ne les intéresse plus. Je pense qu'il y a là une vérité à laquelle nous sommes confrontés pendant toute notre vie, c'est que la vraie richesse, c'est le désir. La vraie richesse, c'est le non-avoir. La vraie richesse, c'est la quête. Et ça, c'est vrai par rapport aussi à ces pourceaux. Il ne s'agit pas de s'en désintéresser de ces pourceaux-là, mais de ne pas arriver avec nos richesses spirituelles pour les écraser de notre perfection. Il ne s'agit pas d'éclabousser les autres de notre bonheur, mais d'aller à la quête avec eux, de se mettre en recherche avec eux et d'essayer non pas de leur amener nos perfections, nos beautés, nos grandeurs, mais de trouver avec eux ce qu'il y a en eux de beauté, de perfection et de grandeur. Et cela change tout. Quand on regarde les gens comme des pourceaux, ils finissent par le devenir et par se comporter comme des pourceaux. La vraie résurrection, c'est de voir l'autre autrement, comme le père du fils prodigue. Vous savez, ce père qui voit revenir son fils, qui lui aussi était avec les pourceaux, et qui était même moins qu'un pourceau parce qu'il ne mangeait même pas ce que mangeaient les pourceaux. Quand le fils revient, il ne traite pas son fils de pourceau, mais il lui dit « Viens, tu es mon enfant ». Ce fils qui était moins qu'un cochon et qui voulait se présenter comme moins qu'un serviteur à son père, eh bien son père le regarde comme son fils et ça change tout. Cela lui rend la vie, en quelque sorte. Tout cela est assez vrai, mais d'une certaine manière, me gêne un peu. Parce que c'est faire de ce texte une lecture binaire, voulant mettre les uns dans le rôle de saints et les autres dans celui des pourceaux. Or, je crois que nous sommes tous un petit peu saints et un petit peu pourceaux. Et donc, pour éviter cela, on peut d'abord penser que ces chiens et ces pourceaux ne représentent pas particulièrement telle ou telle personne, mais représente en soi, je dirais, la bassesse, le vulgaire, le grossier. Et à ce moment-là, on pourrait lire ce texte comme comportant une mise en garde de ne pas dévaluer en quelque sorte les choses saintes qui seraient notre message ou qui seraient le message de l'Évangile. Oui, le message de l'Évangile est sacré, il faut le traiter avec respect et grandeur et il ne faut pas le rabaisser au niveau du trivial parce qu'on ne ferait que du mal. Or, c'est vrai que c'est une tentation de l'Église de vouloir se mettre au niveau du plus bas, de vouloir simplifier le message, de vouloir banaliser les liturgies et les rites pour se mettre au niveau de tous, voire pour racoler le chaland, de mettre en œuvre une sorte de démagogie. Mais peut-être y a-t-il dans notre texte une mise en garde en disant « Faites attention, parce que ce n'est pas en rabaissant vos perles au niveau du pourceau que vous ferez quoi que ce soit. Ce n'est pas en rabaissant l'Évangile que vous ferez quelque chose de bien. Il y a un risque, en effet, de faire tout le contraire. Et donc, dans la transmission de l'Évangile, il ne faut pas dévaluer ce que l'on tient pour saint en le distribuant n'importe comment. Il faut garder aux choses saintes leur valeur, garder aux choses saintes leur sainteté, ne pas tout rabaisser pour prétendre se mettre au niveau des gens. Il ne faut pas essayer de plaire aux cochons ni aux chiens en dévaluant ce que l'on a, parce que cela se retourne contre les messagers de l'Évangile et cela fait dire que ce qu'ils disent n'a pas grande valeur puisqu'ils le bradent ainsi en le jetant dans les porcheries. Et inversement, quand on est soi-même en position de recevoir, eh bien peut-être est-il bon de se dire que nous ne sommes pas des pourceaux justement, et que donc nous devons apprendre à ne pas nous comporter en pourceau, apprendre à accepter ce que l'on reçoit, et que ce que l'on reçoit de la part de l'Évangile, de la prédication de l'Évangile, est complexe, que ce que l'on reçoit est saint, et donc pas nécessairement simpliste, ou en tout cas ne correspond pas forcément à ce que l'on voudrait. Il faut comprendre qu'il y a dans l'Évangile une force de vie, mais que cette force n'est peut-être pas celle dont nous avons rêvé quand nous étions enfants. Le problème des pourceaux, c'est qu'ils ne reconnaissent pas la valeur de ce qui leur est donné, parce qu'eux attendent effectivement autre chose. Et peut-être qu'effectivement, nous aussi, nous passons trop souvent à côté de la grandeur de l'Évangile, parce que nous voudrions que Dieu nous donne tout tout cuit, en quelque sorte. Nous voudrions qu'il soit une baguette magique dans notre vie. Or, Dieu n'est pas cela. Et donc, nous le rejetons en disant « cela ne correspond pas à ce dont j'ai besoin ». Soyons donc moins bêtes que les pourceaux et soyons disponibles pour être capables d'accueillir une parole qui donne la vie, quand bien même, en apparence, elle ne semble pas combler tout à fait nos désirs immédiats et terrestres. Mais un autre moyen, je dirais, d'éviter le piège dont je vous parlais, qui consiste à stigmatiser les uns comme pourceaux et les autres comme saints, c'est de dire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'en fait, évidemment, les pourceaux et les choses saintes se trouvent mélangés en nous. Il est vrai que nous sommes tous un petit peu les deux. Sans doute est-ce pourquoi Jésus a sacrifié sa vie, parce qu'il ne regardait pas l'ensemble de l'humanité comme des pourceaux, et donc il avait une autre image d'une certaine partie de l'humanité. Et donc, s'il a donné sa vie, c'est parce qu'il pensait bien que certains seraient capables de la recevoir. Mais il faut effectivement comprendre que même au plus bas, l'homme n'est jamais totalement impur. Le chien et le cochon, ce sont deux animaux impurs. Ce qui est saint et ce qui est sacré, c'est le contraire. Il y a donc là une analyse, je dirais, du rapport entre ce qui est saint et ce qui ne l'est pas. Par ailleurs, les choses saintes, c'est ce qui désigne dans l'Ancien Testament ce qui est normalement destiné au culte, au temple. C'est-à-dire, c'est ce qui est normalement réservé à Dieu. Les choses saintes, c'est ce que l'on offre à Dieu. Les choses saintes, c'est ce qui est offert en sacrifice. Et donc, le saint, c'est ce qui est d'ordre spirituel, c'est le divin, c'est ce qui est de l'ordre de l'amour. Et les pourceaux, c'est ce que est l'ordre du matériel, de l'animal, de l'égoïsme et du matérialisme. Il faut donc essayer de voir comment on peut mettre en rapport ces deux dimensions qui coexistent en nous. Et peut-être y a-t-il là une exhortation à ne pas mélanger les deux. Ne mélangez pas le saint et l'impur. Alors ça peut sembler contraire au discours des réformateurs, qui visaient à unifier, c'est-à-dire à unifier les deux en disant « il n'y a pas d'un côté le sacré, de l'autre côté le profane », mais en fait les réformateurs ont toujours travaillé pour dire que même le profane peut avoir une dimension sacrée, et que toute chose matérielle peut être quelque chose offerte à Dieu et peut avoir une dimension spirituelle. C'est vrai, mais ce qui est condamné là dans notre texte, ce serait de donner le spirituel à manger au matériel, plutôt que le contraire, qui lui peut être bon. Le matériel peut être au service du spirituel, mais ce qui est dangereux, c'est quand on met le spirituel au service du matériel, parce que non seulement c'est un gâchis, mais ça peut même générer du mal et de la destruction. Alors il y a dans notre vie, c'est vrai, du matériel et du spirituel. Ce n'est pas un problème. Le problème, c'est quand le spirituel se met au service du matériel, je dirais comme une sorte de justification. Alors il faut savoir discerner, ce qui est essentiel et discerner ce qui ne l'est pas. Il faut savoir discerner ce qui est sacré de ce qui ne vaut rien, discerner ce qui a un rapport à Dieu et à l'éternité et ce qui n'est que du matériel et du passager. Et à partir de là, établir une hiérarchie, c'est-à-dire mettre les choses dans le bon ordre. Sinon, on se fait dévorer, par le matériel. Et le matériel, au lieu d'être un objet, risque de devenir un sujet. Le matériel, au lieu d'être à notre service, risque de devenir ce qui nous mange. Et il peut y avoir donc un retournement des positions d'une manière perverse, un retournement de l'ordre qui devrait être le bon ordre des choses dans ce monde. Le Christ dira quelque chose de semblable quand il dira « Il faut rendre à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César ». Le danger, c'est quand on commence à mélanger les deux. Et puis je vous disais que les choses saintes, dans l'Ancien Testament, désignaient ce qui était réservé à Dieu, ce qui lui était offert en sacrifice. Et donc là, il y a un ordre. Ce que l'on doit normalement réserver à Dieu, il faut le donner à Dieu et ne pas le donner au monde matériel. C'est-à-dire qu'il ne faut pas donner l'essence même de notre vie à ce qui est contingent. Or, on donne quoi à Dieu ? On lui donne... Qu'est-ce qu'on lui sacrifie aujourd'hui ? On lui sacrifie sa vie. On offre à Dieu le meilleur de soi-même. Et n'y aurait-il pas là, dans notre texte, une mise en garde en disant « Faites attention, si vous sacrifiez votre vie à quelque chose d'autre que de spirituel, si vous donnez votre existence à quelque chose de matériel qui n'en vaut pas la peine, eh bien cela risque de se retourner contre vous, et cela risque, et vous risquez de vous faire dévorer par ce à quoi vous avez consacré votre vie à tort. » Cela, c'est ce que l'on appelle l'idolâtrie dans la Bible. L'idolâtrie, c'est de se consacrer, de donner sa vie à quelque chose que l'on prétend être plus important que nous et qui, en fait, est moins important que nous. La tendance la plus générale actuellement, c'est de sacrifier sa vie pour son métier, pour son travail. Et quelle illustration moderne n'y aurait-il pas de cette parabole de ceux qui sacrifient pour leur métier, leur temps libre, leur santé, leurs loisirs, leur famille, leurs femmes, leurs enfants, leur couple, tout, et qui ensuite, du jour au lendemain, seront mis au chômage, mais comme une vieille écorce d'orange que l'on jette, sans merci, sans reconnaissance et sans rien. N'est-ce pas effectivement cela, ce à quoi on a donné ces perles et toutes ces choses saintes, se retournent pour vous dévorer. Et donc, prenez garde, effectivement, de ne pas sacrifier votre vie pour quelque chose d'autre que Dieu, pour quelque chose d'autre que l'amour et que le service du prochain. Effectivement, la question de savoir à quoi nous donnons nos choses saintes, la question de savoir à quoi nous consacrons notre vie et notre temps est la question la plus essentielle de notre existence. Mais alors, que ferons-nous de nos perles ? puisque nous en avons quand même, et de nos choses saintes. Eh bien, je dirais qu'il ne faut ni s'en glorifier, ni en asperger les autres, mais en chercher encore d'autres. En chercher encore d'autres. Parce que c'est pour cela que l'on peut entendre aussi cette autre parabole de Matthieu, en Matthieu 13, 44. Quand on dit le royaume de Dieu, c'est un marchand de perles, donc il en a déjà plein, mais il est toujours à la quête d'une perle encore plus belle. Et quand il trouve une perle quelque part qu'il veut obtenir, il va vendre toutes les autres qu'il a pour obtenir celle-là. Et par conséquent, le chrétien n'est pas par rapport à ses perles comme un collectionneur, mais il est comme celui qui est toujours à la quête d'une autre perle, d'une perle encore plus belle. Et donc il s'agit d'être toujours en quête, parce que la foi ne se construit pas sur les perles que nous avons acquises, mais la foi est une dynamique et une recherche. Et à ce moment-là, eh bien, je peux inviter ceux qui sont autour à chercher avec moi, je peux leur donner envie de rechercher, et si je suis dans la quête, alors je trouverai. Parce qu'effectivement, nous dit l'Évangile, frappez et l'on vous ouvrira, cherchez et vous trouverez. Amen.